Échec et mat par Eugène de Mirecourt. Chapitre 1er. Le despotisme de l'Autriche avait envahi la ville de Gênes et voulait métamorphoser des républicains en ilotes. Courbé sous un joug odieux, le peuple n'attendait qu'une occasion favorable pour écraser ses oppresseurs. Cette occasion se présenta, mais la République, trop faible pour tenir tête à l'Empire, implora l'intervention de la France. Le duc de Boufflers, envoyé d'abord au secours des Génois, fut arrêté par la mort au milieu de ses conquêtes. On choisit aussitôt pour le remplacer ce cauchemar éternel des amants et des époux dont la fougue, en amour comme en guerre, permettait rarement à la place attaquée de faire une longue résistance. Richelieu, puisqu'il faut l'appeler par son nom, s'arrache en toute hâte des bras de ses maîtresses, car on doit lui rendre cette justice qu'il ne balancera jamais à quitter ses plaisirs pour voler où l'appelait la gloire et le danger. Suivi de messieurs d'Agénois, de Crussol et de Chauvelin, il s'embarque à Monaco sans attendre ses équipages et passe intrépidement au milieu d'une flotte ennemie se riant des bordées de canons que lui envoyaient les frégates anglaises. Bientôt le palais d'Oria le reçoit dans ses murs. Le doge et le sénat viennent complimenter le nouveau général, qui ne tarde pas à justifier la bonne opinion qu'on avait conçue de sa valeur. Obligé de céder à l'impétuosité française, les Autrichiens évacuent à chaque défaite une portion du territoire envahi. Le bourg de Campofredo, dans lequel il s'était retranché, est assailli par Richelieu, qui l'emporte d'emblée et délivre enfin les Génois de la tyrannie impériale. Mais l'ennemi n'a pas abandonné la frontière. Les armes de la France doivent l'intimider encore et prévenir une nouvelle invasion. Richelieu prend ses quartiers d'hiver à Gênes, c'est le signal des fêtes et des plaisirs. L'épée du conquérant se repose, un valet de chambre à droite s'efforce de changer le soldat en Adonis, besogne difficile, car le duc avait déjà passé la cinquantaine. Des essences parfumées rendent une fraîcheur artificielle à un teint noirci par la poudre des combats, et le favori de Louis XV, vêtu de son brillant habit de cour, papillonne sous le regard des brunes italiennes et, nouveau sultan, s'apprête à jeter le mouchoir. En Italie, les femmes avaient coutume à cette époque de se choisir un sigisbée, sorte de protecteur qui les accompagnait partout, au bal, au spectacle, à l'église, et qui finissait très souvent par obtenir un titre plus doux, sans que les maris eussent le droit de lui enlever son privilège, si ce n'est par un mystérieux coup de poignard qui les débarrassait de ce singulier gardien de la vertu de leur moitié. L'œil exercé de Richelieu distingua bientôt, parmi les dames qu'il invitait à ses fêtes, celle qui méritait le plus ses hommages. Il devint le sigisbée de Pellinetta Brignolet, que le doge avait marié à l'un de ses frères, vieux, goutteux et membre du Sénat. Le duc admirait les yeux noirs, la chevelure soyeuse et la taille élégante de l'italienne, sans compter mille autres charmes que laissait deviner un indiscret corsage ou qui se trahissait au milieu des poses voluptueuses de la danse, alors que la jeune femme, tout entière au plaisir, abandonnait son corps souple aux étreintes passionnées du Lovelace français. Celui-ci, pourtant, à qui la gaieté de Pellinetta, son ton folâtre et son goût pour les divertissements et les fêtes avaient persuadé que cette conquête lui serait facile, d'autant plus que la belle-sœur du doge ne devait pas raffoler de son époux septuagénaire, Richelieu, disons-nous, ne tarda pas à s'apercevoir qu'il s'était trompé dans ses espérances. En vain, ses magnifiques équipages, que vingt felouques lui avaient amenés par mer, sortaient chaque matin du palais pour aller prendre les ordres de l'italienne. Son valet de chambre portait en vain des billets ensevelis dans un gracieux bouquet de fleurs ou cachés dans les nœuds de rubans venus des magasins de France. Le duc en était pour ses rubans, son éloquence et ses fleurs. Gâté jusque-là par toutes les belles, il devint jaloux et ne s'expliqua le peu de succès de ses galanteries que par la préférence accordée sans doute à un rival plus heureux. Nuit et jour, les espions à ses gages devaient rôder aux alentours de l'hôtel de Pellinetta, puis venir lui rendre compte de toutes les démarches de la belle-sœur du doge. Richelieu lui-même, toujours à la piste d'aventures romanesques, prit un costume de bourgeois et sortit du palais par une nuit sombre afin de s'assurer si les gens qu'il payait s'acquittaient de leur mission. Les rues étaient désertes et le voisinage de l'hôtel du sénateur était plus silencieux encore que tout le reste de la ville. Sans doute les espions trouvaient plus agréable de s'enivrer aux dépens de Richelieu, dans quelque taverne, que de gagner un rhume à la belle étoile. Le duc furieux jura qu'il ferait périr tous ces coquins sous le bâton. Mais remarquant son tour que c'est une médiocre jouissance de battre le pavé par une nuit froide et pluvieuse, il se disposait à rentrer au palais Doria, lorsqu'il aperçut un homme accoudé sur la grille de la maison qu'il faisait surveiller. Malgré les ténèbres, il vit que cet homme n'était pas du nombre des espions à sa solde. La jalousie lui fit bientôt reconnaître un rival, et sa fureur ne connut plus de bornes quand il put s'assurer, en approchant, que l'inconnu avait les yeux fixés sur l'une des fenêtres de l'appartement de Pellinetta. « De par tous les diables, vous allez vous battre avec moi !» cria Richelieu d'une voix étouffée par la colère. « En garde !» Et sans autre préambule, il tira son épée. À cette brusque apostrophe, l'inconnu, faisant volte-face, se drapa dans son manteau et toisa fièrement des pieds à la tête celui qui le provoquait. « Si tu es un voleur, tu n'as pas de chance, » dit-il. « Je viens de donner ma dernière pistole à deux hommes dont la présence me gênait dans cette rue. Crois-moi, l'ami, va chercher fortune ailleurs. »« Insolent !» cria le duc. « Par Notre-Dame de Lorette, » reprit l'autre. « Qui donc es-tu pour le prendre de si haut ?»« Un homme qui se rachète l'audace d'un faquin. Je te le répète, en garde. »« Il est fâcheux, monseigneur, que je n'ai pas d'autres armes que cet instrument. » dit l'étranger qui se baissa pour ramasser une mandoline appuyée contre la grille. « Sans quoi j'aurais été ravi de pouvoir mesurer ma lame à celle d'un noble duc. Mais ce n'est que partie remise, monsieur de Richelieu. » L'agresseur, entendant prononcer son nom, fut un instant déconcerté. Dans son transport jaloux, il ne s'était pas aperçu que la fenêtre devant laquelle il avait trouvé son rival en contemplation laissait échapper une clarté douteuse qui suffisait néanmoins pour faire reconnaître le grand seigneur sous les habits du bourgeois. Jetant lui-même un coup d'œil rapide sur l'étranger qui lui parlait avec tant de hardiesse, Richelieu se repentit sans doute des expressions que lui avait arrachées la colère, car il remit son épée dans le fourreau et dit avec bienveillance « Votre main, jeune homme, nous pouvons avoir ensemble une autre explication que celle des armes. Comment se fait-il que vous m'ayez reconnu sous ce déguisement ?» Richelieu s'arrêta, surpris de voir que l'étranger restait insensible à ses prévenances. En effet, celui-ci ne voulut pas accepter la main que le duc lui tendait. Son visage avait une insultante expression d'ironie et sa voix était vibrante d'indignation lorsqu'il répondit, après un instant de silence, « Vous cherchez à séduire une femme que j'aime, monsieur le duc. Bien certainement, vous devez l'emporter sur moi, car depuis 2 années que cet amour me tient au cœur, mes regards seuls ont dit à Pellinetta que je l'adorais. » Elle ignore jusqu'au nom du pauvre artiste qui, perdu dans la foule, la contemple avec extase. Elle ne s'est jamais doutée qu'un homme, caché sous la colonnade des palais, se déchirait la poitrine et maudissait sa misère quand il la voyait, resplendissante de diamants et de fleurs, se mêler au tourbillon des fêtes, écouter les propos vides et les sottes flagorneries de ces mannequins dorés. « Vous vous oubliez, monsieur. » « De ces hommes qui n'ont rien là, » poursuivit l'artiste en posant une main sur son cœur. « Vous me demandiez comment je vous avais reconnu, monsieur de Richelieu. » « Élève de Le Sueur, j'ai travaillé sous les yeux de ce grand maître, aux ciseaux duquel Versailles et Saint-Germain doivent plus d'un chef-d'œuvre. Souvent je vous ai rencontré dans les jardins de Marly, sous les allées sinueuses des parcs royaux, où vous aimez à égarer les duchesses, ce qui ne vous empêchait pas de courir les rues avec un déguisement pareil à celui-ci pour courtiser des bourgeoises. « Assez, mon cher !» interrompit le duc en haussant les épaules. « Il n'est pas un enfant de 7 ans en Europe qui n'en sache autant que vous là-dessus. D'ailleurs, le temps et le lieu sont fort mal choisis pour continuer cet entretien. Veuillez m'accompagner chez moi, nous causerons plus à l'aise. » L'Italien suivit Richelieu, qui ne tarda pas à l'introduire dans le palais splendide que le doge, au nom de la République, avait assigné pour demeure au général français.